Bonjour tout le monde, ici Kevin Gordon et bienvenue à ce nouvel épisode de À la rencontre d'un inconnu. Aujourd'hui, un épisode solo, on va résumer les derniers épisodes et ainsi que le Ask Me Anything qui s'est passé sur Reddit. Alors, restez à l'écoute. Pour Nicolas Lebrun, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé, moi et lui, justement, et avec un retour sur notre passé, sur comment ça s'est développé chacun de notre bord et comment que lui, côté informatique, il a pu se développer pour devenir un développeur de jeux vidéo. Une des affaires vraiment intéressantes que j'ai trouvées à partir de notre rencontre, c'était le Game Jam qui se passait soit à Montréal ou au Québec. Il y en a un justement qui va se passer le 28 avril à l'ETS à Montréal, qui est un petit peu dernière nouvelle pour nous autres. On aurait voulu y aller, mais peut-être potentiellement l'année prochaine, on va pouvoir se rencontrer sur place et profiter du Game Jam 2024, si et quand il va avoir lieu. Mais j'aime le concept du 48 heures pour créer quelque chose, la barrière mentale que ça l'emmène avec la force nécessaire, même si c'est un projet le fun, un projet amusant et divertissant, tu es capable de justement développer tes propres capacités dans un environnement stressant sans vraiment qu'il y ait de stress en soi. Tu vas pas perdre ta job, mais tu vas vraiment explorer ta limite dans ce temps-là. Alors, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment être capable de profiter une fois, comme je viens de dire, en espérant que ce soit en 2024, qu'on puisse profiter de ce moment-là pour explorer ça. Un autre moment qui a été assez intéressant avec Nick, c'est l'importance de commencer plutôt que sans faire avec les détails. On a parlé quelle langue qu'on devrait apprendre pour commencer. Python, Java, Go, peu importe. Le but n'est pas de choisir une langue en soi pour commencer, mais vraiment de prendre le premier pas vers le projet. Je trouve que c'est un petit peu similaire à ce que je fais présentement. Je connais en fait pas grand-chose du podcast, ok, d'avoir écouté certains antécédents, mais je découvre et j'améliore, ou en tout cas j'essaye, à travers les épisodes qui suivent pour justement aller chercher de la part de la communauté sur du feedback, comment que je devrais faire ci, comment je devrais faire ça, si je devrais améliorer ci, si je devrais améliorer ça. Fait qu'ensemble de tout ça, justement, je suis capable de mieux m'aligner sur la création d'un podcast et d'avoir un produit qui est en soi plus attrayant, je dirais, pour les auditeurs. Quelque chose qui va donner plus d'entrain à écouter et quelque chose qui va donner plus de passion à explorer. Fait qu'avec Nicolas, ça ressemblait vraiment beaucoup à ça. C'était vraiment intéressant. Ensuite, il y avait Lucky Sabiti. Lucky aussi, c'est un ami de longue date. Qui s'est lancé dans l'immobilier. Vous pouvez voir ses épisodes dans le 13 et le 14. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup de passion dans qu'est-ce qu'il entreprend. C'est quelque chose que je trouve qui est très contagieux. Quand tu écoutes quelqu'un qui exprime ses affaires, en fait, le meilleur exemple, je trouve, c'est un professeur. Un professeur qui s'exprime avec passion sur le sujet qu'il connaît va entreprendre une certaine relation avec ses étudiants parce que, justement, les étudiants vont voir cette passion-là. Et de partager en soi cette passion-là va faire en sorte que la personne qui va l'écouter va être encore plus attirée par ce que la personne a à dire. Alors, c'est quelque chose que j'aime voir, c'est quelque chose que j'aime partager et c'est quelque chose que j'essaie d'emmener aussi à ma propre épisode de podcast parce que c'est quelque chose qui donne le goût d'écouter. C'est quelque chose que j'aime, c'est quelque chose que je veux partager et je trouve que la passion, c'est vraiment une nécessité dans les podcasts. Ainsi que, en fait, si possible, même dans tous les métiers. Dans la deuxième partie, avec Lucky Sabiti, on parlait beaucoup de nostalgie, on parlait beaucoup de notre carrière antécédente avec la lutte, ce qui a amené beaucoup de bons souvenirs et ça m'a aussi fait remémorer l'importance des souvenirs. Que à chaque moment où qu'on vit, si possible, ce serait bon de faire un souvenir très mémorable. Que ce soit une activité par année, que ce soit quelque chose qui se démarque vraiment, qui va faire en sorte que l'année d'après, tu vas te dire « Hey, c'était vraiment le fun, qu'est-ce qu'on a fait? » ainsi de suite en travers les années. T'as des instances qui sont beaucoup plus mémorables, comme quand j'avais parlé avec Sean Kenton, le moment du cirque était excessivement mémorable, il va l'être encore pour très longtemps. Mais avec Lucky, la nostalgie que j'ai ressentie en parlant de la lutte et de notre époque, c'est quelque chose qui m'a vraiment justement donné un sentiment nostalgique. À l'époque, j'étais pas aussi conscient que je créais ces souvenirs-là pour moi-même. J'étais plus conscient du moment présent. Et avec l'âge, j'imagine que ça, justement, ça a un petit peu changé. Par contre, je me remercie à mon moi du passé pour avoir fait ça. malgré que j'ai pas atteint forcément les niveaux que je voulais atteindre, malgré que j'ai peut-être pas fait comme que je devais faire dans cette époque-là, j'ai au moins été capable de me créer des souvenirs qui vont me suivre toute ma vie. Et je vais essayer de garder cette mentalité de création de mémoire, création de souvenirs mémorables à travers le reste de ma vie, si possible. Le prochain point, c'était le Ask Me Anything de Reddit, sur Reddit. Malheureusement, ça n'a pas été comme que j'avais espéré, pas parce que j'avais pas eu de personnes qui m'ont posé des questions intéressantes ou parce que j'ai pas eu assez de monde, plus parce que je me suis fait rejeter après avoir posté partout. Fait que j'ai posté sur Reddit, sur le Ask Me Anything, et avec les preuves nécessaires et tout, et malgré ces preuves-là, les modérateurs ont enlevé mon poste. Ce qui a fait que j'ai perdu le temps qui était le plus achalandé à ce moment-là. Après un petit peu de back and forth avec les modérateurs, ils ont vu que c'était leur erreur. Ils m'ont envoyé les messages et tout par rapport à ça. Mais malheureusement, mon poste original a été délité. Ce qui a fait en sorte que j'ai reposté pareil un deuxième poste sur le Ask Me Anything. Et ça, c'est quelques des questions que j'ai reçues. Une des premières questions que j'ai reçues était de la part un des modérateurs sur Ask Me Anything. Et c'était comment est-ce que je raconte une histoire? Et je trouve ça intéressant comme question parce que ça revient à ce que Lucky disait quand qu'il luttait. Que le but d'un show de lutte, en soi, c'est de raconter l'histoire d'un match. Tu peux aller plus loin avec plusieurs matchs dans la soirée, mais le but étant quand même de créer une histoire. David versus Goliath, le bon contre le méchant, des classiques. Et une des questions que j'ai eues par rapport à ça sur Reddit, c'était comment est-ce que ça se transigeait à l'explication d'un podcast ou à travers l'épanouissement d'un podcast, l'épanouissement de l'émission d'un podcast. Et c'est quelque chose que je travaille quand même assez quotidiennement dessus parce que justement, je veux avoir un certain flow. Je suis très sévère sur ce flow-là et c'est quelque chose qui permet d'avoir une passion continue si possible à travers l'épisode. La façon que je le fais, c'est avec un pré-entrevue, en fait. J'envoie le pré-entrevue à la personne que je reçois avec environ une dizaine de questions. Ces questions-là sont répondues par la personne et quand je le re-reçois, je vais faire des recherches sur ces réponses-là. Si la personne me dit que c'est une fan de surf, je vais essayer d'étudier un petit peu plus le surf pour savoir qu'est-ce qui va faire en sorte que cette personne-là va vraiment s'allumer. Et de là, séparer l'émission en quelques sections pour être capable de jouer avec ces passions-là. Si la personne a une passion, mais ça va être plus sur une passion. Je vais quand même essayer de naviguer, trouver des potentielles passions adjacentes à quelque chose qui est déjà existant. Si des particularités qui existent, ça vaut la peine de les explorer aussi. Alors, c'est toutes des affaires que j'essaie de montrer sur l'épisode et de montrer sur les émissions. Une autre question que j'ai reçue, c'était pourquoi j'avais pris ma retraite? Selon leur point de vue, c'est comme si j'aurais pris une retraite parce que j'étais bien financièrement et que tout avait été accompli. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Si ça n'a pas changé, ça fait quand même 10 ans, c'est même pas plus que ça, que j'ai lutté. Tu fais pas bien d'argent quand tu commences. Tu fais pas bien d'argent quand tu es intermédiaire. Tu fais vraiment d'argent quand tu es rendu proche des tops. Puis encore là, tu fais peut-être pas assez d'argent pour en vivre. Tu vas payer ta bouffe, ton vol ou ton déplacement, mais ça ne veut pas dire que tu vas être capable d'arriver chez vous et payer tes billes avec ça. Fait que, à un certain moment, tu dois prendre une décision, et je crois que j'en ai touché un mot avec Lucky aussi, tu dois prendre une décision en vie si tu veux continuer à essayer de vivre ton rêve et où tu reviens un petit peu plus à la réalité et tu prends les décisions en conséquence de qu'est-ce que tu as. Et vers la fin de ma carrière, j'ai eu des très gros matchs contre des personnes de renommée mondiale, surtout présentement, et malgré ce confort ou cette confiance plutôt qui venait de la part des bookers et de la promotion, j'ai été obligé de raccrocher mes bottes parce que des blessures m'ont suivi en travers ces matchs-là. Dislocation de l'épaule, un talon bien magané, fracture du coude, tout du même bord. C'était des blessures qui m'ont suivi en travers la lutte et à un certain moment donné, je me sentais plus aussi fearless que j'avais pensé quand j'étais plus jeune. Alors, c'est à ce moment-là que j'ai dû prendre la décision d'accrocher mes bottes et de me focusser plus sur quelque chose qui était capable de payer les bills day in, day out. Une autre question qui était assez intéressante, c'est comment que je prends mes invités, comment j'ai choisi. De base, je suis quelqu'un qui est intéressé par la passion. comme j'ai mentionné plus tôt, si je vois quelqu'un qui parle avec passion d'un sujet en particulier, mais en fait, même pas en particulier, ça peut être vraiment n'importe quoi. Si je sens une passion, je veux explorer le sujet. Je suis très curieux de comprendre cette passion-là. Que ce soit vraiment n'importe quoi, que ce soit l'agriculture, que ce soit de la toiture, que ce soit quelqu'un qui marche dans la rue puis qui a l'air très heureux de marcher. Vraiment, n'importe quoi, n'importe quel sujet qui est encouru avec une certaine passion me donne le goût de l'explorer. Et de là, je suis capable de satisfaire ma curiosité avec l'intensité nécessaire pour être capable de la partager. Mais comment que je le fais quand même, comment que je choisis le monde, généralement, je cherche qui a potentiellement une histoire intéressante et de là, j'essaie de comprendre leur histoire. J'ai une grande liste de personnes que je veux inviter. J'ai déjà invité quand même beaucoup, beaucoup de monde. La majorité ont refusé. Et je comprends aussi, là, je suis juste un petit podcast, là. Ils ont vraiment rien à gagner en ça à venir ici, malheureusement. J'aimerais être capable de leur offrir quelque chose de plus grand. Mais au stade où j'en suis, je comprends leur réticence à venir me joindre. Malgré tout, j'ai quand même quelques personnes qui sont assez gentilles de venir se joindre à moi et de là explorer leurs propres histoires. J'ai quand même quelques personnes qui ont encore dit oui pour certaines prochaines épisodes, mais j'irai pas dans les détails des noms, on va garder ça pour plus tard. Sur la même question, il y avait un autre petit sujet, c'était si c'était intéressant à essayer d'aller rencontrer juste des étrangers, si tu traites dans la rue, tu fais un setup, tu reçois du monde, tu parles un petit peu, et en partie, oui, ça m'intéresserait quand même et je travaille présentement sur un principe à faire ça. C'est pour ça justement que je teste mon nouveau micro. Pour être capable d'explorer plus du en personne, j'aimerais vraiment plus faire ça du en personne et d'explorer vraiment plus sur le point de vue de l'étranger et de connaître les histoires de monde qui nous entoure sans forcément les voir passer au jour le jour, mais vraiment prendre le temps de s'asseoir avec eux et de comprendre leur histoire et d'où ils viennent. Une question qui a bien pris mon attention, c'était sur le Reddit de Québec, où j'ai fait un cross-post du Ask Me Anything. La question qui m'a vraiment pris par surprise, ça vient d'un autre podcasteur. Il n'a pas mentionné c'était quoi son podcast, mais il m'a posé plusieurs questions et voici quelques des réponses avec les questions. Une de ses premières questions était si j'avais des matchs que j'étais particulièrement fier. Et j'en ai quand même plusieurs. Je suis fier d'avoir, malgré que c'était pas un gros match, j'ai quand même fait deux dark matchs à la Ring of Honor. Un contre Bobby Dempsey et l'autre contre Ricky Reyes. Et un peu avant, contre Ricky Reyes, j'avais gagné la ceinture de la NSPW. Ce qui était aussi, à mon avis, surtout à ce point-là, un accomplissement majeur dans ma carrière de lutte. Suivant ça, j'ai eu quand même des adversaires assez potentiellement bons et c'est pour ça tantôt que je disais j'ai vraiment aimé la confiance que la promotion m'avait donnée. J'ai pu lutter deux fois contre El Generico, dont une fois qui était avec Paul London. Ça a été, je crois, mon plus grand match à vie et le match que j'ai vraiment le plus aimé, c'était celui contre Mike Bailey, présentement Speedball Mike Bailey, à la TOW, où j'ai eu un de mes meilleurs matchs, et ça, c'est vraiment grâce à lui. C'est un phénomène de la lutte, présentement. Il était aussi bon, en fait, il était potentiellement moins bon dans le temps, mais aujourd'hui, c'est juste un lutteur phénoménal. Il a tout corrigé ses petits points qu'on aurait pu potentiellement dire qu'il manquait quelque chose. À cette heure, le gars, il est flawless. C'est vraiment le match pour moi qui s'est démarqué dans ma carrière, malgré que j'ai pu lutter contre du monde justement comme El Generico ou contre Paul London ou contre toutes les autres tops du Québec que j'ai pu lutter dans ce temps-là. Le match que j'ai plus préféré, surtout qui était le plus de notre style, c'était celui contre Mike Bailey à la TOW. La dernière question que j'ai reçue, je l'ai trouvée quand même drôle, c'était est-ce que la lutte est chorégraphiée et à quel point est-ce que les coups sont réels? Oui, la lutte, c'est chorégraphié, c'est du théâtre extrême. Comme la FAQ le disait dans le temps, c'est vraiment de la lutte en performance pour le monde. C'est, comme j'ai déjà parlé avec Claude Meloun, c'est un sport. C'est du sport mélangé avec de l'art. En soi, ma réponse était plus que c'est une pièce de théâtre qui met l'accent sur le combat. Les lutteurs professionnels, comparativement à la lutte amateur, ça va être un combat, C'est vraiment juste un sport de combat, tandis que la lutte professionnelle va être un show sur le combat, avec les histoires qui se développent en travers et tout. C'est sûr que ça arrive des vrais coups. Il y en a que c'est très violent. Si tu vas vraiment dans le hardcore, IWS, t'es capable de voir qu'il y a certains coups qui rentrent pour vrai. T'es capable de vraiment voir le gore qui peut en sortir. Il y en a d'autres qui sont plus, je dirais, friendly dans leurs coups. Je crois personnellement que ça prend quand même une certaine intensité pour donner l'apparition de plus réalité. J'avais fait un match contre Van Hawk à Super Juniors. Et on a commencé léger pour finir très lourd, des coups de coude dans la face. Après ça, c'était des coups de pied dans le visage. Au moment qu'on augmentait notre intensité dans le combat, la foule montait d'intensité aussi. Et je trouve que c'était un mélange parfait d'avoir justement assez d'intensité dans nos propres coups pour être capable d'emmener la foule à sa limite et être capable de justement les satisfaire puis d'avoir un résultat que tout le monde est bien content. Alors, c'est ça qui semble être tout pour aujourd'hui. Sur ce, j'aimerais premièrement remercier tout le monde d'avoir été présent. Et malheureusement, ça va être la dernière épisode de la saison. Nous sommes présentement en déménagement et je pourrais pas être aussi actif que j'aimerais l'être en travers ces temps-là. J'ai quelques entrevues de planifier pareil. Je vais juste les sortir un petit peu plus tard pour créer une cédule qui va être plus constante à partir de là. Alors, j'aimerais remercier tous les auditeurs et tout le monde qui a été présent à mon émission. Merci encore. Ça fait un énorme honneur de tous vous avoir. J'aimerais aussi remercier ceux qui ont été présents à Ask Me Anything pour avoir posé leurs questions si intéressantes. Et j'espère vous revoir d'ici un an pour la même affaire. Alors, merci tout le monde. Continuez d'être curieux et à la prochaine.